Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Si la prise de Mossoul par l'État islamique en juin 2014 avait pris tout le monde par surprise, on ne peut pas en dire autant de la bataille en cours. Depuis des mois, nous sommes prévenus. Au printemps, on nous annonçait qu'elle aurait bien lieu, en septembre qu'elle était imminente, le mois dernier qu'elle avait commencé à l'aube du 17 octobre, enfin le 2 novembre qu'elle venait vraiment de commencer avec l'entrée des forces spéciales irakiennes dans le quartier de Gogjali. Ce qui ne change pas par rapport à d'autres batailles, c'est le décalage entre ce qui était annoncé et la réalité du terrain. Les reporters envoyés sur place en conviennent désormais, ce sera plus long, ce sera plus dur que prévu. Les soldats de l'État islamique opposent une résistance acharnée. Cela dit, on aura peut-être la démonstration du contraire d'ici quelques jours. C'est qu'il n'est pas facile d'émettre des pronostics dans un conflit en cours. Les combats sont par nature incertains. L'information, elle, n'est pas toujours vérifiable. La propagande ne fonctionne jamais aussi bien qu'en temps de guerre. Alors, dans un monde médiatique idéal, les journalistes auraient du temps, donc du recul pour raconter ce qui se passe. Mais ce monde, à l'heure de l'information continue et des réseaux sociaux, est révolu, à supposer d'ailleurs qu'il ait jamais existé. Alors peut-on informer sur la guerre en temps réel ? C'est la question que nous allons poser ce soir à quatre invités. Cécile Aignan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, correspondante pour le Moyen-Orient. Vous avez été reporter de guerre pendant 15 ans. Vous avez couvert la guerre en Irak, au Liban et en Libye. Pour discuter avec vous, Jean-Claude Guilbeault, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, vous observez les médias chaque semaine dans l'Obs. Ancien reporter de guerre, notamment au Vietnam, ce qui vous a valu le prix Albert Londres. En 1972, vous avez présidé Reporters sans frontières et vous avez publié en début d'année chez l'Iconoclaste Le tourment de la guerre. Troisième invité, c'est Benjamin Biru, bonsoir.
Bonsoir.
Anthropologue des médias, vous êtes enseignant à Sciences Po et à Paris 2. Vous aviez notamment observé le récit de la guerre d'Irak dans les JT de France 2, c'était la guerre d'Irak en 2003. Voilà, vous en aviez fait toute une étude, puis vous continuez à regarder la façon dont les médias racontent les conflits. Puis notre quatrième invité se trouve en Irak depuis Mossoul. Il s'agit de Laura Maï Gaverio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes reporter de guerre indépendante, ce qui veut dire que vous travaillez pour plusieurs médias. Et j'ai vu que dans les papiers que vous signez, notamment pour le HuffPost, vous étiez également chercheuse en philosophie, ce qui explique sans doute certains de vos tweets, puisque vous êtes très présente sur Twitter, dans lesquels vous vous interrogez aussi sur la nature des informations que vous donnez à ceux qui vous suivent. Alors Laura Maï Gaverio, peut-être pour commencer, je voudrais que vous nous expliquer dans quelles conditions et dans quel cadre aujourd'hui vous suivez la bataille de Mossoul. Est-ce que vous êtes, comme on dit, embedded, c'est-à-dire embarqué au sein d'une armée officielle, en l'occurrence l'armée irakienne ou la coalition internationale, ou bien est-ce que vous le faites en dehors de ce cadre ?
Les conditions dans lesquelles je travaille ne sont pas tout à fait représentatives de ce que font mes confrères nécessairement. Ça tient en fait que j'écris pour un journal un peu particulier qui est le Monde diplomatique. Donc j'ai un rapport au temps qui est un petit peu différent, ce qui me permet de ne pas être embedded, justement, de travailler sans fixeur. Alors bon, ça déplaît beaucoup au consul, mais j'essaye de travailler avec les locaux et en général j'arrive sur une ligne de front parce que j'arrive d'une façon ou d'une autre à passer un checkpoint et à ce moment-là, je suis prise en charge par l'unité qui accepte de me recevoir et qui n'est pas nécessairement prévenue de mon arrivée.
Ça veut dire que c'est un choix délibéré de votre part de ne pas être prise en charge par une armée parce que vous considérez que du point de vue de votre activité professionnelle, ça vous aurait donné davantage de contraintes que de liberté ?
C'est possible. Après, encore une fois, je peux travailler de cette façon parce que le contexte dans lequel je travaille avec mon média me permet de prendre du temps et de travailler avec les locaux parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse au premier chef. Oui, il y a des contraintes à être embedded, mais un bon journaliste, généralement, les manipule avec précaution. Donc, c'est pas parce qu'on est embedded qu'on fait du mauvais journalisme, mais quand on a la possibilité de faire autrement, ce serait dommage de s'en priver.
Alors Cécile Aignan, je disais, vous avez couvert notamment la guerre d'Irak, celle de 2003, hein, c'est bien celle-là. Je crois qu'à l'époque, c'est ce que vous nous avez dit, en tout cas en préparant l'émission, que vous aviez demandé justement à pouvoir faire partie de ces groupes de journalistes qui suivaient l'armée américaine. Ça vous avait été refusé. Pour quelle raison vous souhaitiez la suivre dans ces conditions-là ?
Non, ça s'est pas exactement présenté comme ça. C'est-à-dire, j'y suis allée sur le terrain, j'ai suivi les choses sur place et indépendamment de l'armée américaine. Et ensuite, comme beaucoup de mes confrères, j'ai cherché un angle différent, et donc celui de l'armée qui attaquait, en l'occurrence l'armée américaine. Et donc j'ai fait une demande qui n'a pas été acceptée, mais ça n'a pas été, on va dire, une affaire de toute la guerre. C'est une demande qui a été refusée comme ça, mais ça c'était pas une obsession. C'était pour choisir un angle différent. Et souhaiter couvrir aussi un petit peu l'autre côté auquel je n'avais pas vraiment accès sur le terrain, justement.
Est-ce que ça ne vous aurait pas donné une proximité supplémentaire par rapport au terrain au conflit ?
Mais je pense qu'il faut là faire de faire attention à la différence, c'est-à-dire quand on parle de locaux, en l'occurrence l'armée irakienne qui combat aujourd'hui à Mossoul, on peut être considéré comme des locaux, ce qui n'est pas du tout le cas de l'armée américaine, qui était une armée étrangère, et donc là on est dans dans une configuration tout à fait différente. En l'occurrence, j'estime que pour la bataille de Mossoul, si on parle de locaux, on parle à la fois de soldats, de civils, de groupes armés, de milices, de toute obédience et de différentes ethnies, mais qu'on est bien dans des choses locales avec des interventions étrangères, mais qu'on ne voit pas nécessairement sur le terrain, ce qui n'était pas du tout le cas de la guerre en Irak de 2003.
Ce qui est bien naturel, c'est que chaque guerre est différente, aussi parce que les époques sont différentes. Vous, Jean-Claude Guilbeault, quand vous avez couvert la guerre du Vietnam, et vous l'avez d'ailleurs raconté à Cécile Aignon il y a quelques mois de cela dans le journal Le Monde, quand elle vous a interviewé pour votre livre Le tourment de la guerre, vous dites notamment ceci: ce qui m'a d'abord frappé au Vietnam, c'est le statut du correspondant de guerre. On était en uniforme, on prenait les hélicoptères, on avait un grade d'officier. Ça veut dire que vous étiez autant considéré comme un journaliste que comme un militaire ?
Il faut expliquer pourquoi, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à aller au Vietnam en 69, et la guerre du Vietnam commençait à devenir impopulaire aux États-Unis. Parce qu'il était question de conscription des jeunes étudiants, et du coup, l'indifférence à l'égard de la guerre s'était transformée en impopularité. Donc, l'armée américaine était en position de faiblesse par rapport aux médias. Et il y avait en permanence à Saïgon entre 500 et 600 journalistes accrédités auprès de l'armée américaine. C'était une formalité très longue qui prenait 3 jours. Il fallait la caution de son ambassade. C'était pas aussi simple que ça. Mais quand vous étiez en effet accrédité auprès de l'armée américaine, vous étiez officier, vous étiez en uniforme, vous aviez le droit de prendre tous les hélicoptères, avions, camions, jeeps de l'armée américaine, de dormir dans les bases américaines, de manger aux messes des officiers. Vous aviez même le droit d'avoir des dollars rouges, vous savez, c'est les dollars qui permettaient d'acheter dans les PX, où c'était moins cher. Et se servir des réseaux de communication. Donc c'était une situation assez étrange.
Vous aviez des droits, est-ce que vous aviez des devoirs, et notamment le fameux devoir de réserve, qui est celui des militaires ?
Absolument pas. Au contraire, les journalistes étaient tellement en position de force qu'ils exigeaient d'un général qui faisait un briefing devant une carte. Je me souviens une fois avec un confrère du New York Times, on était tout près de la ligne de front, sur les hauts plateaux, et le général nous expliquait devant une carte, évidemment, qu'ils étaient en train de reconquérir le terrain et qu'ils venaient de reprendre une base de feu. Firebase numéro 6, je me souviens. Et mon confrère du New York Times a éclaté de rire. Il a dit: mon général, vous croyez pas qu'on va vous croire sur parole? Vous vous dites que vous avez repris cette base, il faut qu'on y soit dans 2 heures. Débrouillez-vous. 2 heures maximum, parce qu'après on n'a plus le temps. Et le général, tout penaud, a fait venir un hélicoptère combattant qu'il a détourné de la... Ça veut dire qu'il y avait un rapport de force tellement en faveur des reporters que c'est vrai que, de ce point de vue-là, on avait le droit d'aller partout, sauf qu'on restait prisonnier de la machine américaine.
Est-ce que vous avez l'impression, étant donné les observations qui sont les vôtres aujourd'hui, Benjamin Berru, que ce rapport de force, il est toujours en faveur des journalistes, ou bien est-ce qu'il y a un impact visible et immédiat sur le récit de la guerre quand les journalistes ont une proximité, disons, avec l'armée qui combat?
Alors, ce dont se sont rendus compte les États-Unis à partir du Vietnam et jusqu'à 2003, disons, c'est la modernisation du journalisme embed, c'est que finalement, en effet, les journalistes continuent à critiquer les informations qu'on peut leur donner. Par contre, ça crée une profonde empathie envers les soldats. Les derniers reportages, on avait un dans Le Monde sur la Division d'Or, extrêmement intéressant, où on expliquait, on donnait des noms de soldats de la Division d'Or, on disait qu'ils étaient combattants, on a le récit en un paragraphe de la mort de l'un d'entre eux. Et ça influe forcément sur la perception de la guerre, puisqu'on est avec des gens qui combattent, qui sont quand même, j'imagine, sans avoir été sur le terrain, vos défenseurs. Donc vous avez une empathie qui se crée. Et ça, la communication américaine, de l'armée américaine, l'a complètement compris. Le but de l'embed, c'est pas tant l'info que l'empathie avec les militaires.
Vous seriez d'accord avec ça, Cécile Aignan? C'est-à-dire, c'est peut-être moins la propagande, en tout cas, qui peut poser problème, parce que j'imagine quand même que les journalistes sont relativement bien armés pour déjouer les pièges de cette propagande, en tout cas d'une propagande qui serait un petit peu trop visible, plutôt que l'empathie et, disons, voilà, les réactions qui peuvent être celles du journaliste et qu'on maîtrise un peu moins.
C'est sûr que, de fait, si les armées deviennent de plus en plus, on va dire, robotisées et où l'humanité a tendance à disparaître, les journalistes restent des individus et quand on les met avec des unités ou avec des combattants, quels qu'ils soient, il est évident que la proximité, c'est un phénomène, on va dire, tout à fait humain et compréhensible, cette proximité favorise l'empathie, des amitiés, et c'est vrai d'une armée ou le fait d'être avec une population assiégée, par exemple. Ça me paraît un phénomène, en effet, qu'on peut constater à chaque fois, que j'ai pu vivre personnellement, que n'importe qui pourrait témoigner. Ça serait quasiment inhumain de dire qu'on peut voir, en effet, quelqu'un avec qui on a vécu 15 jours se faire abattre devant ses yeux et de dire que ça ne fait absolument rien. En même temps, la mort de cet officier, par exemple, qui était décrit ce matin dans Le Monde, elle fait partie de l'histoire de la guerre. Et on a, par rapport justement à des armées qui n'ont pas de nom et pas de visage, tout d'un coup, là, on va décrire la mort de quelqu'un et peut-être la peine que ça cause à ces hommes. Ça fait partie de ces récits de guerre et peut-être qui nous apporte des informations ou en tout cas une sensibilité tout aussi intéressante que des chiffres ou le nombre de maisons qui ont été prises, etc. Les récits de guerre ont de tout temps parlé de la misère humaine et ces visages-là, quand ils apparaissent, font partie, à mon sens, de l'intérêt qu'il y a à être au plus près du terrain pour des journalistes, beaucoup plus que de compter, encore une fois, le nombre de fusils récupérés ou le nombre de maisons qui auraient été ou de rues qui auraient été reprises par une armée sur une autre.
Vous êtes d'accord avec ça, Laura May Gaverio? Ce qui compte davantage, ce sont des récits, peut-être des personnages, par exemple, qui en disent plus sur le conflit qui est en cours qu'une recension extrêmement précise, en tout cas qu'on voudrait extrêmement précise, et dont on ne sait pas toujours d'ailleurs si elle est proche de la vérité, à base de communiqués des différents belligérants.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cécile Aignan, et j'ajouterais qu'il y a un challenge dans le cadre de la bataille de Mossoul que je couvre actuellement, c'est que il y a une empathie qui a pu percer jusqu'à présent vis-à-vis de l'armée irakienne, vis-à-vis éventuellement des forces de la coalition, mais il y a encore des unités qui sont des entités pour l'instant, pour nous, parce qu'on les approche pas, on a beaucoup de mal à les approcher. Quand on parle de milices chiites, par exemple, c'est encore un concept pour beaucoup de nous parce que le fait est qu'ils sont rentrés dans la bataille un peu plus tard que les autres, qu'ils sont un petit peu plus compliqués à approcher. Et donc ce qui va être intéressant, c'est quand on va réussir justement à montrer que sous ce terme un peu effrayant de milice chiite, par exemple, il y a des jeunes garçons de 20 ans qui sont pas nécessairement très idéologiques dans leur façon de faire la guerre, qui ont des histoires, qui ont des fantasmes politisés parce qu'ils sont nés à Bagdad à l'année dans laquelle ils sont nés. Et ça va être une partie, un chapitre qui va s'ouvrir. Et je crois que ça va être particulièrement intéressant pour nous.
Est-ce que ça se soucie et il peut aller jusqu'à avoir envie de passer aussi de l'autre côté des combats et d'aller voir les combattants de l'État islamique?
Mais complètement. Et d'ailleurs, le fait est que des combattants de l'État islamique, on en croise en ce moment. Alors, ils sont blessés, hein, généralement. Ils sont jetés dans les petits hôpitaux de campagne. Leur statut n'est pas très clair, mais bon, on comprend assez rapidement que les médecins ne veulent pas les soigner parce qu'ils sont identifiés comme des combattants de l'État islamique. Et alors, bon, là, c'est très compliqué de les approcher parce que les milices qui sont autour, généralement, dans les hôpitaux, ne nous laisse pas leur parler, mais c'est vrai que la tentation est grande parce qu'il y a quand même un individu avec une trajectoire humaine qui pourrait peut-être permettre un peu de démythifier ce qu'on a appelé l'État islamique et que la propagande de Daesh aussi a conforté, et d'essayer de comprendre quels sont ces êtres humains sous les atrocités que nous racontons tous les jours. Ça, c'est évident.
Quand on raconte la guerre, Jean-Claude Guibaud, on est face à une double propagande. Laura May Gaverio évoquait la propagande de Daesh. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une propagande aujourd'hui de la coalition internationale, qui n'est évidemment sans doute pas comparable, mais enfin en tout cas qu'on pourrait qualifier de cette même manière, et que le journaliste doit justement essayer de passer entre ces deux propagandes-là?
Ce que j'entends depuis un moment m'émeut un peu, parce qu'en effet, c'est ce que ça correspond à ce que j'ai vécu pendant une trentaine d'années, c'est-à-dire essayer de construire une vérité avec des mensonges. quand je dis que des mensonges, c'est quelquefois des mensonges par empathie. C'est-à-dire chacun essaie de vous défendre, de défendre son camp, etc. Et à partir de cela, et je dois vous dire que c'est grâce à tout cela que j'ai fini par comprendre ce que voulait dire cette fameuse phrase si souvent citée. La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. Alors c'est une phrase qu'on a longtemps attribuée à Rudyard Kipling. Et en fait, j'ai vérifié dans les livres, et il a dit une phrase voisine. Mais le véritable auteur de cette phrase, en 1917, c'est Warren Johnson, qui était gouverneur de Californie, qui a ensuite été sénateur et qui a été candidat à la présidence de la République américaine, et qui était plutôt pacifiste et qui, tenez-vous bien, par une espèce de sort étrange et funeste, il est mort le jour même de la bombe sur Hiroshima. Et c'est vrai que l'idée que la vérité était toujours la première victime de la guerre, on le vérifie tout le temps et on le vérifie aujourd'hui. Et nous sommes, nous journalistes, on essaie d'approcher tant bien que mal le plus qu'on peut de cette vérité, quelquefois en résistant à nos propres préjugés, à notre propre émotion, à notre propre préférence. C'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine, y compris pour soi-même. On n'est pas des purs esprits comme ça qui descendons de la planète Mars. On a aussi nos amitiés, nos préférences, notre culture, et donc c'est une course sans fin à la vérité. Mais je dois dire quand même que ma grande surprise, ça va peut-être vous sembler un peu contradictoire, c'est quand même tant bien que mal la vérité, elle apparaît tôt ou tard. Quelquefois elle apparaît avec du retard, mais elle finit par apparaître et au fond, quand on est un peu curieux de l'information, on a assez rapidement une idée assez claire de ce qui se passe.
Ça y est, la bataille urbaine de Mossoul se précise. C'est par l'est, sur la rive gauche de la ville, que les forces spéciales irakiennes ont pénétré dans les faubourgs. Les soldats ont d'abord repris le quartier de Gogjali. Mais ils restent prudents, car des djihadistes sont encore cachés dans des maisons. Mais déjà, le bâtiment de la télévision de Mossoul ne serait plus contrôlé par Daesh.
Nos troupes sont entrées dans les locaux de la télévision. C'est important pour le reste de la bataille. Cela signifie que la libération de Mossoul commence vraiment.
Des habitants qui ont réussi à fuir racontent que des combats de rue ont éclaté plus loin dans le quartier de Karama. Une source à l'intérieur de Mossoul nous confirme que les terroristes se sont retirés de ce quartier. Le centre-ville n'est donc plus très loin.
L'extrait d'un reportage diffusé sur LCI au début de ce mois, donc intitulé « Les forces irakiennes sont entrées dans Mossoul ». Alors on a pris LCI, ça aurait pu être n'importe quel
en fait,
autre média de
l'audiovisuel. Elles sont à 10 km du centre. Elles sont encore à 10 km du centre de Mossoul.
Voilà, alors justement, il y a ces précisions ou ces imprécisions peut-être qu'on peut entendre dans le récit. Donc à quelles informations vous, Benjamin Berru, vous entendez quand vous entendez un reportage comme celui-là? Est-ce que vous vous dites, ça y est, je comprends un peu mieux ce qui est en train de se passer sur place? Ou bien ça crée davantage peut-être de confusion que de clarté?
Je comprends mieux ce qui se passe sur place, parce que déjà, il y a toute une série d'informations factuelles à laquelle, bien sûr, il faut faire attention. Moi, ce qui m'intéresse, de mon point de vue, en anthropologie des médias, c'est de me rendre compte qu'une histoire a été produite en amont, une narration a été produite en amont. C'est souvent quelque chose qu'on oublie sur les médias. Les médias produisent le plus souvent le sens d'un événement en amont de l'événement.
C'est-à-dire, on nous annonce la bataille de Mossoul, voilà. Elle va bientôt arriver et ce sera une bataille décisive.
Exactement. On raconte un événement avant qu'il se passe. En général, c'est le mode des chaînes d'information.
Je vais faire le parallèle avec la prise de Bagdad en 2003 par l'armée américaine. Les médias français qui étaient contre la guerre ont dit « ça va être Stalingrad ». Ça va être Stalingrad, donc ça va être des combats de rue et des Irakiens qui ne sont pas contents de vous voir. Et ça va être long. Finalement, ça a été fait en 3 jours. Les Irakiens étaient plutôt pas mécontents de voir les Américains. Et ce qui est intéressant, c'est
que...
La guerre a duré 10 ans, c'est juste.
Quand même, n'oubliez pas.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le problème, c'est pas que le récit est construit en amont. La question, c'est est-ce que les journalistes vont tenir compte des faits qui vont contredire ce récit?
Voilà.
Et là, en 2003, on avait quelque chose d'éthique, parce que les médias français ont dit... Non, ce n'est pas ce qu'on attendait, c'est autre chose. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, mon point de vue, c'est est-ce que dans ce que je perçois, je vois des choses qui sont disruptives par rapport au récit? Donc, par exemple, je me souviens d'un reportage sur Vice, qui suivait déjà des combattants de l'armée irakienne. Et il y avait ce visage d'un collaborateur, ils ont l'État islamique, qui était arrêté. Et il racontait, un jeune de 17 ans, qui racontait... qu'il avait été embrigadé par l'État islamique, qu'il avait fabriqué des bombes pour eux, parce qu'il lui avait promis de faire des études à Bagdad, plus tard. Et là, on avait de l'empathie pour ce personnage, on disait. Et c'est ce côté un peu disruptif dans les récits préinstallés, ceux qui sont prévus en amont. C'est les éléments disruptifs, moi, qui m'intéressent et qui me font comprendre que l'information, en tout cas, se pose la question. si ce n'est de la vérité, parce que la vérité philosophique, au moins des faits et de la véracité.
Est-ce que vous avez été, confronté à ce phénomène, justement, Cécile Aignon ? C'est-à-dire, je rappelle, vous avez couvert la guerre en Irak, la guerre en Libye. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous est arrivé, mais comme ça arrive finalement à tout journaliste, sauf qu'en temps de guerre, c'est peut-être un peu plus compliqué, d'aller sur le terrain en pensant trouver quelque chose, se rendre compte que ça ne correspondait pas à la réalité, et d'avoir peut-être une forme de difficulté à modifier le récit qu'on fait de l'événement qu'on couvre ?
Oui, mais alors, il y a d'abord une chose sur laquelle je veux absolument intervenir, c'est parce qu'on en a parlé en disant qu'il y avait des soldats de l'État islamique dans des hôpitaux avec qui on ne pouvait pas parler, là des jeunes qui avaient été arrêtés et qui racontaient un peu leur vie. Un journaliste n'est pas censé interviewer des prisonniers de guerre. On ne peut pas considérer que des gens de l'État islamique ou de quiconque qui sont arrêtés par des milices chiites ou l'armée irakienne ou qui sont dans des hôpitaux sous surveillance puissent donner un discours fiable à des journalistes. Ils ne sont pas dans une position de parler librement, et l'éthique et toute journalistique stipule très clairement que on peut leur parler, c'est pas une fatwa là, mais pas les interviewer.
Et Cécile Aignon, c'est la grande faute qu'a fait Christine Ockrent au moment de la chute du Shah d'Iran. Elle a interviewé Oveda, le dernier ministre, premier ministre du Shah d'Iran, alors qu'elle l'a interviewé sur le mode du questionnaire policier, et il a été fusillé le lendemain.
Non, mais enfin, il s'agit pas
de Christine Ockrent qui présente Affaires étrangères sur France Culture chaque samedi.
Dans la profession, on n'a pas oublié.
Tout simplement, ça c'est une différence.
Sur la question des faits qui contredisent peut-être le récit initial. Comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on est en mesure, justement, quand on est dans une zone de combat, c'est-à-dire c'est quand même extrêmement compliqué d'avoir du recul, comment est-ce qu'on fait pour modifier son récit, peut-être en plus en ayant une forme de pression de sa rédaction qui vous a envoyé pour couvrir un conflit bien particulier et que vous êtes en contradiction avec ce qui est ce qui
voilà, il me semble qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui est le fait du travail dans l'urgence et dans le danger. C'est-à-dire qu'on part, on se dit, je me souviens de la bataille de Najaf par exemple en 2004, qui fallait couvrir donc au sud de Bagdad. Le fait est que les bombardements et les combats de rue étaient tellement intenses que seulement une poignée d'entre nous ont pu entrer à l'intérieur et que tout ça a effectivement cassé peut-être l'image qu'on pouvait s'en faire en amont. Ensuite, il y a la rédaction qui ne demande pas forcément de dénoncer tout ce qui se passe et d'avoir une photographie nette, mais qui demande qu'on donne du sens à ce qu'on voit, c'est-à-dire de raconter une histoire, d'essayer de donner ce qu'on appelle un angle, c'est-à-dire d'avoir un récit construit. Or, quand on a le nez en plein dans les événements, il est évident que de là à prendre ensuite l'image générale et à reprendre cet événement pour lui donner un sens ou une direction de ce qu'on va devenir les combats, etc. C'est par définition, je pense que c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire la différence entre le journaliste de terrain qui est, selon moi, indispensable en tant que témoin direct d'une réalité, même si elle est toute petite et qu'elle est un point sur la carte, et du travail que feront plus tard les sociologues, les historiens, qui vont prendre le recul nécessaire et qui vont prendre l'ensemble de ces témoignages pour essayer de prendre du recul et faire ce travail critique. Il me semble que pour quelqu'un qui est sur le terrain, qui l'est sur longtemps, etc., compte tenu des difficultés, qu'il est quasiment humainement impossible de pouvoir faire ce travail sur soi-même, même si effectivement on se remet en permanence en question, et puis on se met aussi en permanence en danger, ce qui rend tout cela très compliqué.
Jean-Claude Guibaud.
Oui, moi j'entends bien ce qu'elle dit. Il y a une preuve assez forte de cela, c'est dans le vocabulaire de nos confrères reporters américains. Ils parlent d'une histoire. Oh, I got a story. C'est-à-dire qu'ils vont faire un article qui doit être une histoire, qui doit raconter quelque chose. Sinon, leur journal va râler. C'est-à-dire que, et cette espèce d'obsession d'avoir une histoire, une story, quelquefois c'est très bien, c'est formidable. Si vous avez vu le film La Déchirure, qui est magnifique, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pour avoir son histoire, il fait un travail qui va le mener très loin, le reporter.
Voilà, c'est pendant la guerre du Vietnam.
Voilà, c'est pendant la guerre du Vietnam. Ça se passe au Cambodge, évidemment. Mais c'est une différence d'approche, comment vous dire, qui est assez... Je voudrais simplement ajouter une chose sur ce que disait notre confrère anthropologue. C'est que, à mon sens, en 1991, au moment de la première guerre du Golfe, conduite par François Mitterrand, chef de guerre, il y a tout d'un coup eu une transformation dans la propagande militaire. Jusqu'à présent, et sous l'impulsion des Américains. jusqu'à présent, la propagande militaire, elle était basée sur la rétention d'informations. On dissimulait des informations. Et là, ils ont adopté la stratégie inverse. On inonde la presse d'informations, d'images, etc. Et cette inondation, ce déluge d'informations qui ravissait les chaînes de télévision parce qu'elles avaient des images, etc., finalement a été une façon de camoufler la guerre plus efficace que de retenir les informations.
Ce qui est lié aussi au début de l'information en direct.
Absolument.
Lié au début de l'information en direct, peut-être pas tant que ça. Je voudrais juste vous lire un court extrait d'une des nombreuses chroniques d'Albert Londres, notre maître à tous quand on est journaliste. Chroniques qui ont été recueillies dans un ouvrage contre le bourrage de crâne. Le bourrage de crâne, c'était justement la propagande militaire. C'était aux éditions Arléa. Voilà, j'allais y venir. Et il écrivait notamment ceci sur le front français le 15 février 1918. Tâchons d'écrire serré. Nous sommes sous une menace d'offensive, ce qui fait que depuis des mois, beaucoup d'écrivains font de la copie. Il s'est tant dit de choses que dans le tas, il y en aura de bonnes. Il peut tant s'en dire qu'on hésite à grossir ce nombre. La quantité ne manque pas. Quel régal si nous avions été bavards de notre naturel. Mais comment opérer notre choix? Nous ne rapportions dans notre esprit que suppositions se contredisant, et j'en termine, de l'un à l'autre, commandants, colonels, généraux, saisissant chacun un renseignement passager et vraisemblable, se contredisaient en demeurant raisonnables. Combien à ces moments nous avons apprécié l'infériorité de nos moyens, ceux de la presse écrite, enfin, et de son journal, qui ne nous permettent pas d'écrire tous les matins.
Vous avez oublié un paragraphe, qui est dans quelques pages.
Je ne peux pas tout lire.
C'est après cette sortie que Albert Londres a inventé l'expression « le bourrage de crâne ».
Absolument.
C'est une expression inventée par Albert Londres, qui était le tourment de l'état-major français, parce que il allait partout où c'était interdit, il envoyait promener tous ceux qui voulaient le commander, qui voulaient le diriger. Le bourrage de crâne, il était déjà lui aussi en quête de la vérité première victime.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que si les médias changent et évoluent, les problématiques finalement sont pas si différentes que ça, Benjamin Biru.
Non, là, après, ce qu'on a vu dès le départ, c'est que c'est la notion de temps. Et comme on disait, le temps d'écrire pour certains médias, le temps après de réfléchir en sociologie, de faire un peu d'histoire de la mémoire, ça c'est extrêmement important. Et ce qui est sûr, c'est qu'en 91, en tout cas pour revenir à ça, il y a vraiment une stratégie américaine qui a été pensée post-Vietnam, qui a été d'inonder d'informations.
Et surtout
d'images, pour que finalement les journalistes puissent parler sans savoir trop ce qui se passait. Et pour revenir à la notion de propagande, j'aurais tendance à dire que, oui, en effet, en 91, la France était pro-guerre et participait à la guerre et participait à la propagande de guerre. Et finalement, la propagande ne tient pas tant dans la qualité du message émis que dans l'espace de réception dans lequel vous vous trouvez. Si vous devez être d'accord avec les gens qui portent cette propagande, vous portez la propagande. Si vous pouvez ne pas être d'accord, comme ça a été le cas en 2003, c'est-à-dire que les journalistes peuvent dire parce que l'État français était contre la guerre, si les journalistes peuvent dire cette guerre fait des massacres, toutes les difficultés de la guerre, ce sera beaucoup plus facile pour le dire.
Nous avions eu la chance, parce que nous avions, je ne sais pas si vous en souvenez, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, de 91, à un moment donné, pour montrer à quel point Saddam Hussein était un personnage horrible, etc., quand il avait incendié les puits de pétrole, vous vous souvenez, on avait montré un petit guillemot, un petit manchot ou pingouin mazouté. Et en fait, en faisant des recherches, on s'était rendu compte que c'était une image prise au moment du naufrage de la Moko Cadiz en Bretagne. Mmh.
Quoi, qui avait été purement
copié-collé, et du coup, on avait fait un foin contre TF1.
Il y avait aussi le témoignage d'une jeune fille qui aurait vu des enfants dans un hôpital tués, et en fait, c'était la fille de l'ambassadeur.
La fameuse couveuse.
Laura May Gaverio, donc je rappelle, vous trouvez en Irak, sur le... à proximité de la bataille de Mossoul. Je voudrais qu'on vienne sur cette question du temps nécessaire, alors dont vous nous dites que vous disposez grâce aux médias pour lesquels vous travaillez, en l'occurrence le monde diplomatique. Et pourtant, vous avez un usage extrêmement, j'allais dire compulsif, c'est peut-être un petit peu négatif, ma façon de le dire, mais de Twitter. En tout cas, vous êtes très très présente sur Twitter pour raconter ce que vous voyez, pour répondre aux questions des internautes. Et en même temps, vous jouez ce jeu de Twitter, et en même temps, vous tweetez parfois vos doutes, c'est-à-dire en se disant, est-ce que finalement ce que je suis en train de raconter là, ça a vraiment une qualité informationnelle très très importante. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette contradiction, c'est-à-dire de la nécessité de l'avoir de la distance et en même temps de suivre ce que vous voyez et d'en faire part en temps réel?
Mais très sincèrement, c'est compliqué pour moi de vous répondre parce que c'est une expérience pour moi. dont je perçois toutes les limites, mais que je m'amuse à mener parce que quand, par exemple, je raconte une journée sur la ligne de front en direct, je vois que ça intéresse énormément ceux qui me suivent sur Twitter. Et j'avoue que je prends un malin plaisir en plein milieu de la journée à tweeter à ceux qui me suivent, mais vous avez conscience quand même que je ne vous dis rien actuellement de la société irakienne, des conséquences de cette guerre, et que quelque part, il y a presque un voyeurisme un peu malsain dans ce que je suis en train de vous raconter et que vous êtes en train de recevoir avec beaucoup d'intérêt. Mais ce que j'apprécie dans ce moment-là, c'est que justement, ceux qui me suivent, enfin en tout cas une grande partie, me répondent et me disent « Ah oui, en fait, vous avez peut-être raison ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une réflexion peut-être qui peut s'ouvrir, parce que finalement, je suis dans la même position que ceux qui me suivent, à savoir que je me pose des questions sur ce qu'est Twitter et sur ce que ça véhicule de pertinence quand on raconte une situation de guerre. Mais au final, mes lecteurs ne sont pas complètement stupides non plus. Ils sont demandeurs de sens. Et à ce moment-là, ça se perçoit. Donc, pour moi, Twitter, si vous voulez, et ce récit en direct, que je fais pas tous les jours, que je fais de temps en temps, il me permet de, à la fois de raconter déjà ce qui ne sera jamais dans un papier du monde diplomatique, parce que c'est encore une fois une autre temporalité, et il y a énormément de choses que j'ai envie de dire, donc pour moi c'est un espace de liberté, mais c'est une liberté que je sens très limitée, parce que c'est vrai que de raconter un tir de mortier, et puis alors en fait il répond de Milan, et puis alors le général dirige les opérations depuis la colline, est-ce que ça permet vraiment de comprendre les enjeux de cette guerre dans toute l'histoire des guerres irakiennes? Voilà, moi c'est une question que je me pose, encore une fois l'exercice a ses limites. Et il faut les dire, et c'est ça l'exercice critique.
Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de cet usage des réseaux sociaux comme ça, en live, sur le terrain de guerre, Cécile Aignon? Il y a Libé récemment qui faisait un tout petit article sur le sujet qui appelait ça l'ère de la tweet guerre, en rappelant que les offensives donc se sont retrouvées, alors pas seulement sur Twitter mais sur Facebook, sur YouTube et même sur Periscope, vous savez, cette application qui permet de diffuser des images en direct. Donc on a vu des offensives notamment diffusées par la télévision russe, paraît-il, sur Mossoul, et qui étaient sur Periscope.
Cécile. Mais moi, je vous avoue que pour, enfin, ce qui concerne vraiment les lignes de front et les conflits que j'ai couverts, il y avait déjà le téléphone portable et même Twitter ou quoi. Mais par définition, on n'avait pas de réseau, pas d'électricité, des batteries qu'il fallait sauvegarder à tout prix. On se battait pour la moindre minute pour envoyer je sais pas quel texte, etc. Donc j'avoue que c'est un développement qui me dépasse complètement, mais même pour des raisons techniques, je ne sais même pas comment c'est possible techniquement. Donc,
et est-ce que journalistiquement ça vous intéresse? C'est-à-dire, est-ce que vous regardez aussi, pour vous informer peut-être, justement, ce mode-là de relation du conflit?
Ah, mais moi je la suis sur Twitter, mais j'avoue plus comme avec beaucoup de curiosité, plus que pour un intérêt informatif. Et il y a d'autres confrères aussi qui le font d'ailleurs de façon très littéraire, qui tweetent comme ça des phrases plutôt, on va dire, très bien tournées sur ce qu'ils voient, sur un coucher de soleil, sur un tank, etc. J'avoue que c'est un mode narratif qui certainement a de l'avenir, mais pour lequel moi, j'ai de la curiosité, mais déjà d'un dinosaure, malheureusement, j'ai l'impression.
Jean-Claude Guibaud.
Moi, j'y vois qu'une chose positive, c'est que pour tweeter, elle se met hors du groupe. Et je pense que dans ce métier, le pire de tout, c'est quand on reste dans le groupe, quand on reste. Il faut faire bande à part pour faire du reportage.
Oh, on appelle ça le cirque.
Il faut toujours à côté, être un peu à côté. Et de ce point de vue-là, c'est bien. Maintenant, raconter la guerre de Mossoul dans des tweets, j'ai beaucoup de respect pour cette jeune consoeur, mais
j'exprime ses doutes aussi. Hein, c'est une forme d'expérimentation.
Je vais aller voir, mais ça m'occupera pas mes soirées.
Mais je trouve ça intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire se mettre à part. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
ça,
il faut quand même.
Ce qu'elle fait est très bien, parce que honnêtement, quand je sais pas, des jeunes journalistes au moment du prix Albert Londres viennent me demander mais qu'est-ce que vous me recommandez de faire, etc. Je leur dis toujours ne chassez pas en meute. Quand vous partez couvrir une guerre, quittez la foule. Enfin, quand je dis la foule, c'est les 30 ou 40 grands reporters. Et faites un truc, si votre journal vous le permet, éloignez-vous de l'actualité, faites bande à part. Et faites sujet à part. Et c'est là que vous trouverez les pépites et les choses les plus intéressantes.
Mais peut-être que justement les réseaux sociaux, aujourd'hui, Benjamin Biéru, permettent d'échapper à la meute, justement. Et de produire un contre-discours qui est peut-être pas le discours dominant. Et c'est aussi une forme de liberté, si c'est bien utilisé.
Alors, pour les... Le périscope est véritablement périscope, donc la diffusion en direct est vraiment rentrée dans les dans la culture avec la le putsch en Turquie où là il y a eu des diffusions en direct sur périscope, mais c'était plus par les civils si je puis dire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la notion de temporalité. Il ne faut pas oublier qu'au début, Twitter n'est pas censé être un outil pour partager des URL vers l'information. Twitter, c'est censé dire « je pense ceci, je pense cela » en 140 caractères. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est le bon réinvestissement de Twitter, c'est-à-dire une temporalité d'une pensée, d'une réflexion à un moment donné sur « qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que c'est juste ou pas ? Et donc, en effet, d'une introspection. C'est ce qu'on appelle du microblogging, donc du petit journal personnel. Donc, moi, je pense que ça a un rôle intéressant en termes d'interprétation et de temporalité. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'à un moment donné, on a des tweets d'information et qu'on a des tweets de réflexion sur ce que vivent les gens sur le terrain.
Ça permet peut-être justement d'avoir ce travail de recul, Laura May Gaverio, c'est-à-dire à un moment donné, on est obligé de se poser, de réfléchir régulièrement à ce qu'on fait, à ce qu'on écrit.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Twitter, de toute façon, est un outil qui, appliqué au journalisme, fait énormément peur. Et effectivement, certains de nos confrères qui ont commencé avant nous ce métier regardent avec beaucoup de circonspection, ce que je comprends, parce que moi, je suis plutôt, à la base, quelqu'un qui écrit. Donc ça, je le comprends. Mon confrère, par exemple, David Thompson, qui, lui, fait un journalisme sur Twitter et qui a été un des premiers à utiliser cet outil, a été critiqué, félicité. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les journalistes que moi j'ai vu utiliser Twitter, qu'ils soient sur une ligne de front ou à Paris en train de parler du djihadisme, quand ils sont intéressants, c'est parce qu'ils mettent un certain cadre. Par exemple, vous ne verrez jamais David Thompson tweeter des choses sanguinolentes, de la propagande sans distance, etc. Pour ma part, je n'utiliserai jamais Periscope, je ne filmerai jamais en direct avec mon iPhone un soldat en train de se faire tuer. Il y a un moment donné où je me suis appliqué un certain code. C'est pas pour ça que j'estime que Twitter, c'est la panacée. Moi, j'ai une chance, c'est de pouvoir faire des reportages de terrain de long terme. J'ai 2, 3, 4 mois pour travailler et faire un sujet. Twitter, c'est un succès d'année. Et ça n'est pas du journalisme. C'est un journaliste qui partage une expérience un peu subjective. Et je crois sincèrement que tous ceux que je vois faire la même chose le font avec un peu de conscience. En tout cas, mes confrères français, je ne les vois pas utiliser Twitter de façon compulsive et complètement irréfléchie et voyeuriste. Donc je crois qu'il faut prendre cet outil avec beaucoup de précautions. Mais j'ai jamais vu aucun de mes confrères français faire ça de façon complètement inconsidérée et puérile. On teste, on expérimente et peut-être qu'on arrêtera parce qu'on se rendra compte que ça mène nulle part.
Jean-Claude Guibaud, l'émission est quasiment terminée. Vous nous disiez donc tout à l'heure, voilà, ce que je conseille moi aux jeunes journalistes, c'est de faire bande à part. Est-ce que ça veut dire que quand on se retrouve sur une zone de guerre, il faut aussi être capable de prendre des risques et jusqu'où prendre des risques pour délivrer une information qui soit la plus intéressante possible?
C'est des risques qu'on prend vis-à-vis de sa rédaction en chef. Il faut obtenir sa rédaction en chef, qu'on s'éloigne un peu du news, du break news, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que, tout d'un coup, prendre un peu d'espace, de temps et tout, pour aller ailleurs, quoi. Donc, mais ce que je voulais dire, si vous voulez, j'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est que, on a beaucoup parlé de temporalité. Il faut savoir que la vérité d'une guerre, elle finit toujours par arriver, mais quelquefois très tard. Et je vous disais hors micro tout à l'heure qu'il y a l'exemple le plus fameux, c'est les bombardements alliés sur la France, de 40 à 45, qui ont fait 60 000 morts et qui ont été un sujet interdit, un sujet tabou jusqu'à il y a 2 ans. Il y a eu d'abord un livre très, très complet et un film qui tout d'un coup enlevait un tabou. Mais pendant 70 ans, tout simplement, cette vérité était interdite. Elle a fini par arriver.
Voilà, donc peut-être qu'on se retrouvera d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années pour poser la question que s'est-il vraiment passé lors de la bataille de Mossoul. Juste un dernier mot, vous aussi, Cécile Aignon, sur les risques à prendre. Être reporter de guerre, on ne l'a pas dit, mais c'est aussi mettre sa vie en danger. Je ne vais évidemment pas faire une liste exhaustive, mais on se souvient évidemment de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon qui sont morts au Mali, journaliste de RFI, de Camille Lepage, qu'on a peut-être davantage oublié, mais qui était en Centrafrique, c'était il n'y a pas très longtemps, une jeune photographe, ou encore Pierre Billot et Joanne Sutton en Afghanistan. C'est aussi ça, faire du terrain et du journalisme de guerre.
C'est vrai que c'est bien de rappeler à quel point c'est dangereux et à quel point, quand on critique de loin l'information qui est donnée par les reporters de guerre, rappeler que ce sont des informations prises au risque de leur vie. Ensuite, peut-être mettre justement quelle est la limite, c'est savoir quand on risque sa vie propre et quand on se met à risquer celle des autres, peut-être ceux qui nous accompagnent, les fixeurs, les photographes, les gens qui parfois les locaux qui n'ont pas tout à fait le même choix que nous que de partir, et peut-être que c'est là la limite que je mettrais, le risque qu'on prend pour soi et là où on embarque les autres.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Cécile Aignon, Benjamin Berru, Jean-Claude Guillebeau, Laura Maï Gaverio, on vous souhaite bon courage pour la suite de vos reportages. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps que vous le souhaitez, la commenter sur notre fil Twitter. Et oui, nous aussi, nous en avons un. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Frédéric. Demain, nous allons contribuer à l'hyperinflation médiatique autour des États-Unis. Avec la question suivante, qui sort vainqueur de la présidentielle américaine? Il ne s'agira pas seulement de donner le nom du vainqueur, mais de voir aussi qui dans la société américaine sort vainqueur de ce scrutin. Voilà, tout de suite, c'est le sommaire de ping-pong avec Mathilde Desmartins. Bonsoir à tous les deux.